Dirigeons-nous pour commencer ce numéro vers le sud de l'Eure-et-Loire. Parmi les rivières qui réveillent et nourrissent les paysages euréliens, la Conie est l'une des plus discrètes. Pourtant, elle est un réservoir de biodiversité important avec des milieux très variés, dont l'étendue des richesses est encore à découvrir. D'où l'étude lancée par l'équipe scientifique du Conservatoire d'espaces naturels. Marie Wesset et François Ergotte ont entamé un inventaire des espèces végétales et animales de la Conie. Vous connaissez déjà Marie, chargée d'études à l'antenne eurélienne du Conservatoire, qui établit entre autres les plans de gestion des sites à préserver. Eh bien, commençons par faire connaissance avec François, son homologue loiretain, puisque la Conie traverse ces deux départements. Bonjour Marie, bonjour François, merci de nous rejoindre à distance. Alors avant de partir tous les trois pour la vallée de la Conie, une petite question à François que nos auditeurs découvrent, mais qui fait lui aussi partie de l'équipe du Conservatoire. Alors François, en fait, vous êtes l'équivalent pour le Loiret de Marie chez nous en Eure-et-Loire. Quel est votre rôle et quelle est votre zone d'activité?
Je suis chargé d'études au Conservatoire d'espaces naturels et donc je travaille sur le Loiret, mais aussi parfois également en Eure-et-Loire, notamment dans le sud de l'Eure-et-Loire. Donc cette année, j'ai fait tout un travail de terrain, de cartographie de végétation sur la vallée de la Conie, donc pendant tout le printemps et l'été. Voilà, donc pour soutenir Marie, qui elle a aussi un travail d'inventaire, mais le site est grand et donc il a fallu qu'on soit deux pour arriver à faire un travail complet sur donc la pour avoir une meilleure connaissance des milieux naturels et puis des espèces présentes dans la vallée de la Conie.
Très bien. Alors justement, nous prenons la direction du sud de notre département. Nichée au cœur d'une vallée verdoyante, la Conie, c'est une petite rivière discrète qui s'écoule paisiblement et qui donne naissance à des espaces naturels que le Conservatoire entend donc préserver. Alors Marie, une rivière, une vallée, finalement, ça représente toujours une réserve de biodiversité?
Oui, exactement. Surtout en Eure-et-Loire, où les richesses écologiques sont vraiment présentes sur les vallées. Et la vallée de la Conie, elle est un petit peu particulière. On a, nous, quelques sites conservatoires déjà, le site des Marais à Benoît-Saint-Metz, et puis on peut citer également Moronville, sur la commune de Courbevoie. Et finalement, c'est une vallée qu'on connaît assez peu, et on a souhaité en savoir plus sur cette vallée, parce que c'est donc une rivière un peu particulière qui est alimentée uniquement par la nappe de Beauce, par infiltration, donc il y a très très peu de ruissellement. Et donc, on est sur des habitats qui sont vraiment particuliers et on va les découvrir ensemble.
Très bien. Alors François, la préservation de la Conie et de sa vallée ne date pas d'hier. On peut préciser que le site est classé zone de protection spéciale, Natura 2000. Alors peut-être que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce que ça signifie.
Alors oui, les zones de protection spéciale sont des zones qui sont validées, désignées au niveau européen, dans le cas de Natura 2000. Pour la protection des milieux et puis des espèces qui habitent ces milieux naturels. On a des habitats d'intérêt européen, on a des espèces également qui sont d'intérêt européen, donc ça veut dire qu'à l'échelle de l'Europe, ces milieux ou ces espèces sont considérées comme étant rares, peu fréquentes ou très localisées.
Voilà. Très bien.
Et donc c'est un petit peu... C'est ce qui fait aussi l'intérêt du site, c'est ça.
Alors, le Conservatoire a lancé une étude plus étroite donc, de la vallée de la Conie. Alors, pour quelle raison, dans quel but et quels peuvent être les enjeux de conservation sur ce territoire?
La Conie, l'intérêt écologique de la Conie est connu depuis longtemps, puisque les naturalistes ont fait des observations sur la Conie depuis maintenant des dizaines d'années. Il y a eu des inventaires botaniques qui ont été faits dans le passé, donc il y a eu des connaissances qui ont été accumulées au cours des décennies, ce qui fait que on a déjà un minimum de connaissances. Alors avec des données, des observations qui peuvent dater de 10, 20, 30 ans, qui ne sont pas actualisées évidemment, mais qui montrent aussi tout l'intérêt du site. Et puis on a aussi des milieux naturels qui sont aussi connus par les botanistes avec des espèces végétales particulières qui sont liées précisément au milieu humide, mais pas que d'ailleurs, mais surtout au milieu humide parce qu'en fait la particularité de la Conie d'être alimentée par des sources, c'est qu'on a des espèces qu'on trouve rarement, ou parfois certaines espèces végétales ne se trouvent que là en Conie, au niveau de la région centre, comme notamment l'utriculaire vulgaire qui va pousser dans l'eau, est une espèce carnivore, enfin voilà, carnivore pour simplifier. Et cette espèce-là, elle vit dans des eaux froides, donc qui sont là alimentées par les résurgences de nappes, donc de l'eau plutôt fraîche, et donc c'est des espèces qu'on trouve pas forcément en région Centre-Val de Loire. Et donc ça, c'est vraiment une particularité de la Conille, par exemple.
Alors Marie, on parle de ce site, mais est-ce que on ne devrait pas, alors peut-être parler de site au pluriel, parce que en fait, il y a plusieurs milieux naturels finalement dans cette vallée.
Alors cette vallée, en fait, oui, c'est un continuum de milieux naturels. Et comme je le disais tout à l'heure, on a mis au conservatoire plusieurs sites sur la vallée. Et ce qu'on voulait, c'était avoir un aperçu plus global de cette vallée, puisque finalement, on la connaît pas en dehors de notre site conservatoire. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir un aperçu de tous les habitats naturels présents sur l'ensemble de cette vallée qui fait plus de 2000 hectares. On a cartographié, François a cartographié plus de 2000 hectares de milieux naturels. Et donc, ce qu'on voulait avoir, c'était un aperçu de ces habitats naturels, de ces espèces qui sont présentes et qui ont déjà été observées, comme le disait François, par des naturalistes les années précédentes. Mmh. On voulait faire un bilan de toutes ces espèces-là. François a pu faire également quelques inventaires pour compléter. Et puis, ce qu'on voulait aussi avoir, c'était un aperçu des parcelles communales, notamment sur cette vallée. Et le but de cette étude, c'est de pouvoir, nous, conservatoire, orienter notre stratégie de préservation sur cette vallée et de dire, bon, bah, en plus des sites conservatoires qu'on a déjà actuellement, il y a tel ou tel endroit à préserver de manière prioritaire.
Votre rôle à tous les deux, on le comprend, c'est de défricher le terrain au figuré, en tout cas en ce qui vous concerne. Alors, on imagine que la première étape, et c'est ce que vous nous expliquez, c'est tout d'abord de savoir de quoi l'on parle et puis d'effectuer des cartographies, des inventaires. Alors François, ça a été votre mission. Comment est-ce que vous procédez? Par quoi vous commencez? Est-ce que vous ciblez quand même au préalable certaines zones en particulier?
Alors, on commence par faire un travail d'après photo aérienne. Ce qui nous permet en fait déjà d'identifier certains milieux, parce qu'on arrive à identifier certains milieux déjà d'après photo aérienne. Et puis, donc ça permet en fait, si vous voulez, de dégrossir. Avant d'aller sur le terrain, c'est ce que j'ai fait. Hein. Mm-hmm. Et en fait, ça permet de préciser certaines choses. Ça nous permet de mieux cibler les endroits où on doit aller pour, disons, vérifier ce qu'on a observé d'après photo aérienne, ou voir parfois... Ben, identifier, parce qu'on n'arrive pas tout à identifier. Et puis, ça permet aussi de préciser des limites de milieux naturels, hein, puisque quand on fait une cartographie de végétation, il faut qu'on puisse distinguer différents types de milieux entre eux. Hein, donc, il y en a pour lesquels c'est plus facile à faire en photo aérienne, parce qu'entre un boisement et une roselière, on arrive à voir la différence. Mmh. Mais parfois, certains habitats, entre une végétation aquatique et une autre, c'est pas évident. Donc on est obligé aussi d'aller sur le terrain pour constater ça, vérifier et préciser en fait des limites de milieux naturels. Donc ça nous permet avec cette cartographie, donc on a fait un travail préalable donc d'après photo aérienne, ensuite un travail de terrain qui nous prend tout le printemps et une partie de l'été, qui nous permet également de collecter des informations sur les espèces aussi, hein, puisque mm-hmm. au cours des prospections qu'on fait pour la cartographie de végétation, eh bien on observe aussi des espèces faunistiques, floristiques, donc on les collecte également.
Alors justement, comment est-ce que vous procédez pour ces inventaires sur le terrain? Encore une fois, on imagine bien que le travail est colossal, donc est-ce qu'il y a une zone qui est délimitée à l'avance?
Oui, alors on délimite, on a déjà notre secteur d'étude hein, qui est déjà délimité à l'avance, et puis on dégrossit, si vous voulez, le travail en bureau avec un travail d'après photo aérienne, et après quand on va sur le terrain, on a déjà ces éléments-là. Mm-hmm. Ça nous permet aussi de prendre connaissance du terrain. Il peut y avoir aussi des sorties préalables hein, dans des secteurs qu'on ne connaît pas du tout, pour savoir un petit peu comment se font les accès. Hein. Donc on peut pas aller partout non plus. Hein. Donc ça, c'est aussi une limite, hein, parce qu'il y a de la propriété privée, parce que donc on a des accès qui peuvent être limités. Parfois aussi, c'est dangereux. Hein, on peut pas s'approcher. Sur la vallée de la Conille, on a des zones tourbeuses. Hein, oui. Donc il y a des zones qui sont inaccessibles aussi du fait que c'est trop humide, hein, c'est un peu dangereux. Donc on peut pas aller partout non plus. Bon, puis si vous voulez, on n'a pas le temps d'aller non plus dans tous les endroits. Donc on est obligé de nous appuyer parfois que sur la photo aérienne parce qu'on n'a pas accès à certains endroits. Donc on fait un travail de terrain au maximum de ce qu'on peut faire. Et puis il y a des habitats qui sont facilement identifiables, qu'on peut facilement déterminer, dont les limites sont facilement déterminables sur le terrain, d'après photo aérienne. Je veux dire, et il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Ouais. Alors, je parlais des zones humides, mais il y a aussi des pelouses calcaires, parce qu'en fin de compte, je veux pas qu'on oublie aussi ces milieux-là. C'est des milieux ouverts qu'on a sur les coteaux et là, ceux-là, ils sont plus faciles d'accès, mais beaucoup plus localisés aussi. Hein. Et donc, ces habitats-là sont aussi pris en compte parce qu'en fait, ils ont un intérêt, ils sont aussi intéressants que les milieux humides d'ailleurs.
Parmi les espèces, justement, j'allais en venir aux espèces, parmi les espèces animales et végétales que vous avez répertoriées, est-ce qu'il y en a qui sont surprenantes ou en tout cas plutôt rares dans notre département ? Vous nous parliez tout à l'heure d'une petite plante carnivore.
Oui, alors il y a la lutriculaire hein, qui est une espèce qui est très localisée, qui est localisée en région centre, notamment dans la vallée de la Conie, mais qui peut être très commune dans les milieux humides de la vallée de la Conie. Donc on peut en avoir dans certains endroits, on en a des tapis, si vous voulez. Hein. Mm-hmm. Et par contre, on a aussi d'autres espèces, je vais citer le busard des roseaux, qui est présent dans les grandes roselières, parce qu'en fait, ce qui est caractéristique sur la vallée de la Conie, c'est qu'il y a des grandes surfaces de roselières dans les milieux humides, et des roselières encore en assez bon état de conservation, si vous voulez. Hein. Ça veut dire que le terrain est assez humide pour les entretenir, et donc parfois elles sont aussi entretenues. Hein. Il y a des gens qui coupent les roseaux, qui font des ouvertures. Donc tout ça fait qu'on a des roselières qui sont encore en bon état. Globalement, ça représente à peu près plus de 8% de la surface totale de la zone cartographiée, donc ce qui est pas mal du tout. Il faut pas oublier qu'on est en pleine Beauce, donc c'est un milieu qu'on rencontre quand même pas du tout. Donc c'est quand même très très localisé sur la vallée de la Conie. Et il y a des espèces remarquables qui nichent dans ces grandes roselières, comme le busard des roseaux. Hein. Donc qui est assez présent à certains endroits de la Conie où on a des coupes, on a peut-être 5 à 10 coupes au total. Hein. Donc c'est quand même important. Et c'est des oiseaux qui vont nicher dans les roselières. Et donc on a des espèces qui sont quand même liées au milieu humide et notamment aux roseaux. Quoi. Donc on a aussi le bruant des roseaux qui porte bien son nom, qui est aussi un petit passereau qui est lié au milieu humide. Le râle d'eau aussi, qui est plus rare. Et donc toutes ces espèces-là vivent dans ces milieux humides, dans ces roselières, ils s'y reproduisent.
Et l'intérêt de préserver ces espaces, c'est qu'on peut aussi voir peut-être revenir des espèces qu'on voit un petit peu plus au sud, dans la vallée de la Loire. Je pense évidemment au castor qui n'est pas encore remonté, mais ça peut être une possibilité.
Alors moi, j'en ai pas vu, mais c'est pas impossible. Hein. Il est en train d'étendre sa zone d'habitat. Hein. Il remonte les affluents de la Loire. Il y a aussi la loutre. Il pourrait revenir, hein, c'est pas impossible parce que bon, mais elle beaucoup plus discrète là, pour l'observer. Mais c'est des espèces qui sont plutôt en extension et qui peuvent, alors surtout, je dirais à l'aval hein, de la Conie, hein, non, les parties qui s'assèchent l'été, c'est plus compliqué, mais toute la partie qui est située entre Notonville et Donnemasse-Saint-Mamès, en fait, c'est des zones où il y a de l'eau en permanence. Évidemment, c'est plus attractif pour ces espèces là, quoi. À la fois le castor ou la loutre. Mais oui, il y a des espèces qui naturellement s'étendent hein, dans toute la France et qui avaient disparu hein, quasiment. Mais on a des retours d'espèces comme ça qui peuvent toucher la Conie. Mais elles ne sont pas toujours faciles à observer, à détecter. Hein. Le castor, plus facile, parce qu'il a des traces. Mais la loutre, c'est plus compliqué. Après, on a des espèces d'oiseaux qui peuvent éventuellement... Alors, c'est difficile à dire. Hein. On a aussi des fluctuations sur la vallée de la Conie. Il y a eu des périodes d'assèchement. Donc, on a si la nappe phréatique est bien alimentée, les sources sont bien alimentées, ça permet d'avoir un niveau d'eau assez élevé sur la vallée de la Conie. C'est intéressant pour la flore et les espèces, mais ça n'a pas été comme ça tous les ans. Vous voyez ? Il y a des années où ça a été très sec. Donc on a aussi des fluctuations climatiques qui font qu'on a des habitats qui peuvent être moins intéressants à certaines époques pour certaines espèces.
Eh bien Marie, alors vous avez la mission notamment d'analyser les données qui ont été récoltées par François. Alors cette analyse des données, c'est toujours un peu mystérieux pour nous. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces inventaires? Qu'est-ce que vous allez en faire?
Alors ce qu'on cherche à analyser, c'est notamment les espèces qui sont présentes et leur statut de protection, savoir quelles sont les espèces patrimoniales qui sont présentes sur cette vallée. Et puis, de même, pour les habitats biologiques, on a des habitats qui sont plus ou moins rares, donc on va regarder quelles surfaces de milieux sont présents. Donc, tout à l'heure, François disait qu'il y avait quand même un nombre important de roselières, et ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi à analyser, parce que on se rend compte que les grandes surfaces de roselières, au final, il y en a très peu en Eure-et-Loir, voire en région centre, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les surfaces, et puis donc les espèces. Quelles espèces sont présentes? Quel est leur statut de protection? Combien il y en a? Là, pour information, au niveau des espèces, il y a 914 plantes qui ont été recensées. Et pour la faune, on a 945 espèces qui ont été recensées en tout. Je n'ai pas encore fait l'analyse des espèces patrimoniales, mais on a quand même un cortège d'oiseaux très intéressant. Et puis après, ce qu'on va analyser aussi, c'est le foncier, le parcellaire, où sont les parcelles communales, par exemple.
Alors oui, ça vous l'évoquiez tout à l'heure, ça, Marie, et vous parliez bien sûr pour le conservatoire de stratégie par rapport à ça. Très concrètement, ça veut dire que on va, s'il y a une parcelle qui est intéressante, on va se renseigner sur le propriétaire de cette parcelle et puis peut-être essayer de se rapprocher de lui, que ce soit une commune ou peut-être un particulier.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir cibler les secteurs prioritaires, d'identifier quel est le propriétaire, comme vous dites, et puis derrière, de pouvoir enclencher ce qu'on appelle l'animation territoriale, c'est-à-dire qu'on va contacter les propriétaires soit directement, soit par le biais de la SAFER, qui est un de nos partenaires, et puis de proposer aux propriétaires de travailler avec nous.
Alors merci pour cette incursion dans les coulisses du conservatoire et dans votre travail. Quelles sont les prochaines étapes de votre étude?
Eh bien là, ça va vraiment être l'analyse et la rédaction de cette étude pour pouvoir terminer cette étude donc en 2021 et pouvoir la remettre à nos financeurs, dont la Comcom Cœur de Beauce et le Pays du Mois, qui ont été très intéressés par notre étude. Donc ils attendent avec impatience aussi. Les résultats.
Très bien, Marie, François, merci beaucoup à vous et on vous dit à très très bientôt dans Toucher Terre.
Merci.
Merci.